One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Touchdown Actu. J'ai un peu savonné, mais c'est bien le podcast Touchdown Actu. Ravi de vous retrouver, Lucas Vola. Je suis avec vous et avec Victor Rouillet et Grégory Richard pour parler des Patriots, des New England Patriots aujourd'hui. Comment ça va, messieurs? Comment ça va, Victor?
Mais écoute, ça va. Ça va bien pour parler de cette équipe qui t'est chère et qui est peut-être, on en parlera, mais une des pastilles, je trouve, les plus compliquées à faire de la saison.
Qui dit compliqué dit aussi intéressante. Grégory, comment ça va? Est-ce que tu partages cet avis?
Tout à fait. D'une part, ça va et je partage en effet cet avis. C'est toujours une équipe, j'allais dire polarisante. Forcément, elle est de fait, hein, mais oui, je pense que les avis vont beaucoup diverger concernant cette franchise.
Eh ben, rentrons dans le vif du sujet. On va parler des Patriots, donc, avec un bilan de 8-9 l'an dernier, une équipe qui a manqué les playoffs, comme lors de deux des trois dernières saisons. Il y a eu quelques mouvements dans cette équipe. Juju Smith-Schuster est arrivé globalement pour remplacer Jacoby Myers hein, sur le poste de receveur. Mike Gesicki, du côté des Dolphins, est arrivé à New England. Riley Reiff aussi, Calvin Anderson sur la ligne offensive. Jonathan Jones et Jabril Peppers ont été signés et prolongés. Jonu Smith, on en a parlé il y a deux jours, est parti du côté des Falcons. Il a été envoyé dans un trade. Et du côté des départs, il y a Jacoby Myers, Damian Harris, Nelson Agholor, Devin McCourty qui a pris sa retraite aussi, et Jake Bailey, le punter, qui est parti. Messieurs, je vais être cash d'entrée, puisqu'on parle de polarisant, allons-y. Est-ce que Bill Belichick est sur la sellette?
Ah oui, non.
Vas-y. Victor.
Non, bah, sur la sellette, non.
Je m'explique avant que tu développes, mais on a commencé à entendre un petit peu des rumeurs. Alors, ce ne sont peut-être que des rumeurs, mais Robert Kraft, le propriétaire, commence à être pas forcément satisfait de Bill Belichick. On l'a dit, ça fait deux saisons sur trois sans play-off. Celle où les Patriots sont allés en play-off, on s'en rappelle, ça a été un carnage face aux Bills. Et Bill Belichick, ça fait quelques saisons qu'il enchaîne quelques mauvais choix. On va en parler, mais le choix de Matt Patricia, la saison dernière, il n'a pas été reluisant. Voilà, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il est sur la sellette? Est-ce que ça commence à chauffer pour lui ou il a le totem d'immunité, Grégory?
Alors, moi, je vois ça de l'extérieur, mais moi, à mon sens, j'ai du mal à me dire, même si j'entends que Robert Kraft était habitué au caviar pendant 20 ans, j'ai du mal à me dire que, très concrètement, Belichick soit sur la sellette. Globalement, oui, il y a ce mauvais choix qu'on a cessé d'évoquer l'année dernière, ce mauvais choix Matt Patricia qui, dès le début, a transpiré et qui a été confirmé tout au long de la saison au point de causer une énorme régression, de la part de Mac Jones. Le problème a été considéré, à mon sens, de la part de Bill Belichick pour essayer de faire en sorte que cette attaque ait un meilleur rendement, mais je trouve presque miraculeux la manière dont l'attaque a tourné. Vu les échos qu'on avait de Matt Patricia l'année dernière. Donc voilà. Je répondrai un non à ta question, mais ça ne veut pas dire que tout sera rose et qu'il ne faut pas remettre en question les choix qui ont été faits et surtout ce qui va venir au cours de cette saison 2023 du côté des Pats.
Victor, ça a été un non catégorique pour toi aussi?
Moi, je pense qu'il est clairement sur la sellette, par contre.
Ah, pardon, ça a été un oui, du coup.
Je pense qu'il arrive au point Chirac, c'est-à-dire peut-être qu'à un moment, il est vieux, usé et fatigué, tu vois. Parce que, on parlait, alors, voilà, assistant head coach, il reprend Joe Judge, coordinateur offensif, il va reprendre Bill O'Brien. Alors, Bill O'Brien, ça a toujours été un excellent coordinateur offensif. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Mais il y a un moment où il faut donner du neuf, quoi. Il faut donner des idées neuves. Et à reprendre les mêmes mecs pendant 20 ans, encore et encore et encore, il y a un moment au niveau des idées neuves, tu vas peut-être commencer à t'essouffler, notamment dans une NFL qui offensivement change beaucoup. J'ai peur qu'on arrive au moment où, avec tout le respect que j'ai pour Belichick, qui est le meilleur coach de l'histoire, qui n'est pas le meilleur GM de l'histoire, hein, ça on pourrait y revenir, mais je pense que oui, il y a un moment là, il décide de faire confiance toujours au même mec, bah, il va falloir que ça paye. Alors son bilan,
c'est tous les coachs qui fonctionnent comme ça, hein. Ils ont plus ou moins tous une garde rapprochée. Après, c'est sûr que c'est plus accentué parce que forcément, il y a beaucoup de revenants, j'entends ce que tu dis. Après, est-ce qu'on peut considérer qu'avec McDaniels, même sans Brady, c'était catastrophique ces dernières années? J'en suis pas persuadé. Hein.
Non, mais après, je ne lui mets pas forcément son bilan dans la figure parce qu'il n'avait pas non plus les joueurs pour gagner 12 matchs. Quoi. Comme tu dis, on s'est un peu habitué au caviar. Mais peut-être qu'à un moment, le football, c'est un business. Hein. Il a beau être là depuis 25 ans, si Kraft en a marre, il le dégage en 24 heures. Je pense qu'à un moment, oui, est-ce qu'il y a peut-être besoin d'une nouvelle impulsion dans cette équipe? La question mérite d'être posée.
Bon, messieurs, on était sur le bord de touche. On va rentrer sur le terrain, on va parler des points forts, des points faibles de cette équipe. Est-ce qu'on est sur un schéma très caricatural en disant que le point fort, c'est la défense, le point faible, c'est l'attaque dans cette équipe? Je vois Victor faire non de la tête. On parle des points forts d'abord. Est-ce que la défense n'est pas considérée comme un point fort?
Je dirais que pour moi, le point fort, c'est les lignes. Et c'est pour ça que je disais non dans le sens où je n'avais pas cette attaque-défense. Parce que bon, la ligne défensive, moi j'aime bien, Barmore, je trouve qu'il se développe bien. On a quand même deux gros pass rushers avec Jordan et Uche. Donc c'est une équipe qui me rassure sur ce point-là. Et sur la ligne offensive, bah, on a Strange qui a fait une excellente saison, Andrews qui reste top, Brown qui fait le boulot, Onwenu qui est un des meilleurs de la ligue, et on a récupéré en tackle Ryder Reef, qui reste pour moi un bon tackle. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que dans la construction de cette équipe, même s'il y a une construction, puisque c'est historique avec Belichick, aussi au niveau de defensive back, moi, j'aime bien ces lignes. Et je fais partie des gens qui pensent que quand tu as des bonnes lignes, déjà, tu es sur des bonnes bases. Donc, le point fort, vous avez peut-être en effet parlé plus de la défense, mais moi, il est hybride, c'est les lignes en général.
Grégory.
Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Alors, en fait, c'est un peu problématique, c'est un peu l'anti-Tampa, je trouve, cette défense des Pats contre la passe, c'est-à-dire que, enfin, dans le sens où elle était capable de générer de la pression, où elle concédait beaucoup de yards aussi dans le domaine aérien, ça c'est un fait, mais malgré tout, et malgré la baisse de régime du backfield au lendemain notamment du départ de Jesse Jackson, il y a quand même cette faculté, je trouve, dans le système Belichick à provoquer des pertes de balles, notamment des interceptions, et c'est pour ça qu'à mon sens, il y a un côté par moment où ça reste une défense qui plie sans rompre, qui est capable éventuellement de faire un petit peu dérailler l'adversaire sur n'importe quelle séquence. Alors c'est sûr que c'est moins marqué qu'à une certaine époque où il y avait sans doute des joueurs un peu plus établis sur tous les rideaux défensifs. Mais je trouve qu'encore une fois, avec les nombreux jeunes joueurs, les nombreux rookies notamment qui ont été lancés dans le grand bain la saison dernière, tout n'a pas été calamiteux. Il y a la draft en plus de Christian Gonzalez au premier tour, dont il faudra voir et ce que ça va donner, mais en tout cas, on sait que ça a été un playmaker très établi durant son cursus universitaire. Donc voilà, le nerf de la guerre, c'est les turnovers, c'est tout ce qui est possession du ballon. Et je trouve que cette défense a encore la capacité de provoquer plus de pertes de balles de la part de l'adversaire et de permettre à New England d'avoir un bilan assez flatteur en fin d'année.
Pour ma part, je partage ton avis. Pour moi, cette défense-là, quand on la regarde, quand on prend une vision un petit peu plus globale, certes, il n'y a pas de joueurs où on se dit ces joueurs sont incroyables, il n'y a peut-être pas les meilleurs joueurs à opposition, mais en même temps, elle est très homogène. Tu as parlé du backfield défensif qui n'est pas toujours au top, mais qui est plutôt bon. Jonathan Jones a été prolongé, Christian Gonzalez a été drafté, tu l'as dit. Il y a Adrian Phillips, Kyle Duggar qui est la doublette du côté des safety. Il y a une bonne ligne, tu en as parlé, Victor. Les linebackers sont plutôt bons. Et puis Belichick, du côté défensif du moins, il sait encore ce qu'il fait et il y a toujours des défenses très bonnes. Donc c'est vrai que pour moi, cette défense-là, elle est très homogène. L'année dernière, c'est la défense qui donnait la position sur le terrain la plus haute à son attaque. On a vu ce qu'a fait l'attaque l'année dernière, mais en tout cas, la défense, elle a été bonne l'année dernière et je pense qu'elle le sera cette saison aussi, malgré le fait qu'elle va jouer contre des très bonnes attaques dans cette AFC Est. Du coup, messieurs, du côté des points faibles, je vais enchaîner parce que pour moi, la ligne offensive, Victor, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Elle n'est peut-être pas du côté des points faibles, mais j'aurais du mal à la mettre en point fort parce qu'elle est très inconstante. J'ai trouvé, ça a été pendant longtemps un très bon point du côté des Patriots, mais je la trouve très inconstante. Est-ce que Grégory, tu vas jusqu'à la mettre dans les points faibles ou tu es plutôt d'accord avec Victor?
La O-line, pour moi, c'est facteur X. Je ne suis pas allé jusqu'à point faible. Pour moi, c'est un facteur X dans le sens où, malgré tout, il y a eu des investissements consentis. Là encore, il y a une régression qui est assez incontestable ces derniers mois du côté New England, qui est peut-être liée aussi au système offensif qui était mis en place l'année dernière, dont on a déjà parlé. Peut-être qu'avec Bill O'Brien, ce sera déjà un peu plus. Ils seront peut-être un petit peu moins exposés dans ce domaine-là. Il y a eu Cole Strange, drafté au premier tour l'année dernière, qui a fait une très bonne saison rookie globalement. Et il y a eu pas mal d'ajouts, Sidi Sow sur l'extérieur, Antonio Mafi, l'ancien du UCLA en position de garde, Jake Andrews en centre. Donc vraiment, on a essayé vraiment d'incorporer beaucoup plus de jeunesse d'une part et beaucoup plus d'agressivité. Donc ça peut être une équipe, encore une fois, notamment pour déjà être un peu plus, se faire un peu plus respecter sur le jeu au sol, qui là encore a eu des standards un peu plus élevés par le passé du côté de New England. On a fait en sorte d'avoir une ligne offensive beaucoup plus, enfin voilà, beaucoup plus rajeunie, enfin, clairement améliorée dans ce domaine-là, même si paradoxalement on a un Riley Reiff à côté qui signe, mais qui très clairement ne sera pas une signature longue durée. Mais pour moi, c'est plus facteur X, la ligne offensive.
Victor, pour toi, tu as parlé donc de cette ligne offensive qui était un point fort. Est-ce que dans cette attaque, du moins, tu vois certainement des points faibles, je suppose?
Ah bah oui. À commencer par Mac Jones, qui pour moi est le joueur qu'on a vu en université, c'est-à-dire un game manager limité et qui c'est pas mauvais. Tu perdras pas forcément tous les matchs. Encore une fois, il a excuse Matt Patricia aussi pour l'année dernière, mais j'ai du mal à imaginer qu'il passe un cap. Et puis il est quand même pas aidé par les cibles, hein. Parce que quand tu vois que tes receveurs, c'est Davante Parker, Smith-Schuster et Bourne, bon, ça pourrait être pire, hein. On a vu bien pire en NFL, mais c'est quand même pas la panacée, comme dirait un célèbre commentateur de football américain.
Grégory, je t'ai vu hocher de la tête quand il a annoncé Mac Jones.
En fait, c'est compliqué parce que c'est toujours la même chose, c'est la vérité de l'instant. C'est-à-dire que Mac Jones, à la fin de sa saison rookie, alors je ne parle pas spécifiquement pour Victor, hein, mais c'est un point de vue global et c'est ce qui ressort beaucoup. Mais c'est vrai qu'à l'issue de la saison de sa saison rookie, on disait, ah là là, excellente saison, etc., etc. Et en l'occurrence, oui, il n'avait été qu'un game manager, mais il l'avait très bien fait globalement. 2022, voilà, il y a un coup de moins bien où en effet les stats sont moins bonnes. Il ne fait pas une saison à 5 touchdowns et 12 interceptions non plus. C'est sûr que malheureusement, je pense également qu'il a été un petit peu tributaire des problématiques offensives qu'on a évoquées. Alors après, c'est sûr que là, avec un nouveau coordinateur qu'il a peut-être déjà croisé d'ailleurs du côté d'Alabama, je vais pas dire de bêtises parce que peut-être que Bill O'Brien est arrivé après son départ après sa draft. J'ai un doute là-dessus. Je pense que c'était Sarkissian encore qui était
Ouais, je
coordinateur
pense qu'il
offensif.
arrive après.
Donc oubliez mon propos, j'ai rien dit. Mais en l'occurrence, oui, si avec un nouveau coordinateur offensif là, ça fonctionne pas. Oui, il faudra se poser des questions. Mais là, c'est pareil. Point faible, là, je rejoins totalement Victor. Malheureusement, c'est ce poste de receveur. C'est ce qui les tue depuis des années et des années et des années. Et ils n'arrivent pas à réaliser ce coup à la Randy Moss. Hein, ça commence à remonter un petit peu, mais ils n'arrivent pas à réaliser ce coup. On aurait pu penser avec DeAndre Hopkins pendant l'intersaison. Manifestement, il coûtait trop cher. Et pour l'instant, on est toujours à se dire, mais quand est-ce qu'on va réussir à trouver un receveur numéro 1? Alors peut-être qu'un Tyquan Thornton également qui a montré des choses intéressantes sur le premier match de pré-saison, mais ça reste qu'un premier match de pré-saison. En tout cas, il avait été drafté assez haut l'année dernière. Peut-être qu'il peut aider en ce sens. Victor a cité d'autres cibles, mais c'est vrai que sur le papier, ça fait encore bien, bien mince pour permettre à cette équipe de New England d'être un petit peu plus équilibrée dans le secteur offensif.
Ils avaient tenté le coup il y a 2 saisons, on s'en rappelle l'intersaison où ils avaient mis beaucoup d'argent sur les cibles avec Jonnu Smith, avec Hunter Henry, avec des receveurs notamment. Ça n'a pas fonctionné. Là, cette saison, on a quasiment, je le disais, échangé Jacoby Myers, qui était peut-être le meilleur receveur la saison dernière avec Juju Smith-Schuster. Je ne suis pas sûr que ce soit que les Patriots gagnent au change. Je suis assez d'accord avec vous, messieurs. Pour moi, c'est vraiment le gros point faible du côté de Mac Jones. On verra. Victor, tu parlais de passer un cap. Je pense qu'entre la saison 1 et la saison 2, il a baissé d'un cap. S'il revient à son cap de saison 1, déjà, ça peut être un peu mieux. Et on verra avec Bill O'Brien. Moi, j'enchaîne, messieurs, sur le facteur X, parce que c'est Bill O'Brien, pour moi, le facteur X. Parce que vous l'avez dit, ça a souvent et quasiment tout le temps été un bon coordinateur offensif. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de faire ce qu'avait fait un petit peu McDaniels avec Mac Jones, c'est-à-dire de le refaire passer ce cap-là, de le faire redevenir un quarterback correct, voire bon. Est-ce qu'il va être toujours aussi efficace dans son play call? Voilà, c'est un pari que prend Bill Belichick en faisant un pari et en faisant de la confiture dans un vieux pot, comme on dit. Est-ce que ça va réussir? Pour moi, c'est le facteur X. Et je n'ai pas traité de Bill Belichick de vieux pot. Je vous ai vu sourire, messieurs, ni Bill O'Brien, hein, attention.
Là-dessus, je suis d'accord avec toi, très clairement. Encore une fois, on va faire beaucoup de répétitions, mais voilà, pour moi, le gros point faible l'année dernière, c'était cette attaque et le poste de coordinateur qu'on n'aurait jamais dû donner à Matt Patricia. Donc, à partir du moment où il y a un changement dans ce domaine-là, et je pense qu'O'Brien peut quand même faire mieux que Patricia, je serais quand même très étonné du contraire, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être un factor X.
Je vais changer un peu, entre guillemets, pour le plaisir de changer, parce qu'évidemment, j'avais le même que vous, mais Ezekiel Elliott.
C'est vrai que j'ai oublié de le noter et de le signaler parce que c'est très récent. Ezekiel Elliott qui est arrivé pour être globalement le deuxième running back. Il signe un contrat d'un an. Je te laisse en parler, Victor.
Bah déjà, il va affronter les Eagles en première semaine, ce qui va lui faire plaisir vu que les Eagles, ça le motive toujours beaucoup. J'ai des souvenirs du Vietnam en pensant à Ezekiel Elliott contre les Eagles, mais bon. Non, mais en tout cas, ça reste un joueur... Sur les, on va dire que entre lui et Stevenson, quand il va falloir pilonner sur les gains courts, il y aura du monde, quoi. Et c'est jamais anodin d'avoir un joueur qui va passer des 3e et 1, des 3e et 2, des 4e et 1. C'est quand même sur ce genre de détails que se gagnent les matchs. Donc, je trouve qu'il ne sera pas autant utilisé que dans le passé, et tant mieux. Mais je trouve que du coup, c'est pas mal pour lui.
Surtout qu'on parlait du coaching un petit peu, je mets des gros guillemets, vieille école de Bill Belichick. On sait que sur des 3e et 1, des 2e et 1, ça va courir parce qu'on le sait, c'est comme ça qu'il coach. Et puis en plus, on sait aussi qu'il vaut mieux que ça passe parce que les 4e tentatives, elles sont rarement tentées du côté de Bill Belichick. Pour lui, il punt. On va parler du calendrier, messieurs. On commence, Victor l'a dit, avec cette réception des Eagles, le finaliste, le champion NFC en titre. La réception des Dolphins aussi, déplacement chez les Jets, déplacement à Dallas ensuite, réception de New Orleans, déplacement du côté des Raiders face à Josh McDaniels, réception des Bills, déplacement chez les Dolphins, Commanders et Colts à domicile, même si le match face aux Colts sera à Francfort en Allemagne. Il y aura la semaine de repos ensuite, et puis on terminera la saison avec un déplacement à New York face aux Giants, réception des Chargers, déplacement à Pittsburgh face aux Steelers, réception du champion en titre, les Chiefs, et on termine avec le déplacement à Denver et à Buffalo pour finir à domicile face aux Jets. Messieurs, le calendrier n'est vraiment pas facile. J'imagine même peut-être que ça pourrait commencer à 0-4 même, et ce qui serait vraiment pas bien pour les Patriots. Qu'est-ce que vous imaginez en pronostic pour cette équipe de New England?
Ça, c'est sûr que c'est un peu scénario catastrophe, quoi. Tu prends deux fois les Bills, deux fois les Dolphins, deux fois les Jets, et en plus, tu prends les Eagles, les Chiefs, enfin, vraiment, tu prends tout le monde, quoi. Donc, là, moi, je pense que ça fait partie des équipes qui vont se faire punir d'être justement dans une grosse division. Et je les annonce à 5.
Oh.
5-12.
Oh merde, pardon. Ouais. Ah, je ne l'ai pas vu venir, celle-là.
Et ben voilà, écoute.
Donc, les Bucks sont meilleures piches que les Pats, alors, cette saison.
Oui. Parce que les Bucks sont en NFC Sud et que les Pats sont en AFC Est, c'est quand même pas négligeable. C'est 6 des 17 matchs, les matchs de division quand même.
Et que les croisements entre divisions, on l'a assez répété jour après jour.
Et en plus, ils prennent AFC West derrière. Non, mais attends, c'est trop.
Enfin bon, ils vont pas perdre les 6 matchs de division non plus en restant sérieux 5 minutes.
Non, ils gagneront face aux Jets parce que
non, mais alors,
c'est comme ça que Bill Belichick fonctionne.
En fait, ce qui est très problématique, et ça fait partie, je pense, de la réflexion globale, c'est que cette équipe des Pats, elle est très perturbante dans le sens où ils peuvent très bien taper les Eagles en ouverture, voire les Chiefs. Ils peuvent très bien perdre chez les Broncos et chez les Giants, par exemple. Si je prends des équipes de moindre calibre. Donc c'est ça qui est très perturbant, c'est-à-dire qu'ils ont une défense qui peut faire déjouer n'importe qui. Après, est-ce qu'ils n'ont pas une attaque qui risque potentiellement de tomber sur un os quand ils tomberont sur des défenses un peu élites? On avait parlé des Jets, par exemple. Je ne les vois pas forcément perdre les deux matchs contre les Jets, mais il y a sans doute des matchs, et ça s'est vu l'année dernière, par exemple, où la défense de New York peut poser beaucoup, beaucoup de problèmes à Mac Jones. Pour moi, c'est l'équipe, en effet, de par le calendrier et de par le niveau de la AFC Est, où j'aurais le plus de réserves, je suis quand même monté à 9-8.
Ouf,
À 9-8.
Je suis quand même monté à 9.
Ah ouais, non, la Turette.
J'étais à 5-12 aussi, hein, pour être honnête, messieurs. Je vous ai laissé parler.
J'étais à 5-12 aussi.
Ah voilà, voilà.
J'ai dit entre 5-12 et 6-11, hein, pour être honnête, mais c'est vrai que pour moi, cette division, tu parlais de défense élite, tu as parlé des Jets, mais il y a aussi les Bills.
Mais Mac Jones qui va gagner 9 matchs, t'es fou.
Alors, je sais qu'il a déjà eu Brady, mais c'est quoi la fiche la moins flatteuse pour Brady, pour Belichick? C'est l'année dernière à 8-9? Enfin, le plus petit nombre de victoires depuis que Belichick est là, parce que j'ai un doute.
Il fait pas une saison à 7 là, il y a pas longtemps
avec Cam Newton, certainement. Il y a deux saisons.
C'est ils font 7-9 en 2020, bien vu. Ouais. Ouais. C'est le pire bilan de Belichick, je crois, depuis qu'il est arrivé. Il fait un 5-11 la première année, j'ai rien dit.
Ouais, enfin bon, attends, la première année,
J'ai posé une question, j'y réponds.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein.
On est d'accord.
Bon, messieurs, il va falloir conclure. En tout cas, on est loin là. Hein. Il va falloir que l'un de nous fasse un effort.
Ah bah non, on est tous les deux à 5. Nous sommes en démocratie.
J'ai voulu contenter tout le monde, mais c'est vrai que là, Grégory, tu es trop loin. Moi, j'hésitais entre 5-12 et 6-11, Victor. Est-ce qu'on peut...
7-10, ça va quand même.
On monte à 6. On monte à 6 et c'est le maximum.
6-11. Je suis désolé, Grégory. C'est vendu. 6-11 pour les Patriots. C'est ainsi que se termine cette pastille sur les New England Patriots. Encore une fois, vous retrouverez la preview sur le site, écrit par moi-même, donc pas forcément par un autre rédacteur, mais peut-être que ça sera écrit différemment. Je n'ai pas encore écrit, j'essaierai de ne pas être biaisé parce qu'on vient de dire, messieurs, voilà, vous
j'ai
pouvez
hâte de,
retrouver...
J'ai hâte de lire les commentaires, en tout cas, si tu as mis 5-12.
Je ne l'ai pas fait encore, mais je pense que je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre. Voilà. Bon, en tout cas, vous aurez l'occasion de la lire, d'écouter tout ça. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, messieurs. On va parler des Green Bay Packers. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous nous écoutez. Ciao, ciao!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.